Chapitre 51. 3 octobre 1998, 4h12. Le camion démarra du premier coup. Marc l'avait déjà conduit plusieurs fois, sur de très courtes distances. C'était généralement lui qui, depuis 2 ans, manœuvrait pour le sortir dans Dieppe ou le garer dans le jardin. Nicole lui avait appris les points de repère pour reculer et braquer. La boîte aux lettres, le volet gauche du voisin d'en face. Cela passait tout juste si on respectait scrupuleusement les recommandations. Le Citroën de type H des Vitral était l'un des derniers à avoir été fabriqué en France. Pierre Vitral l'avait acheté en 1979 et Citroën avait stoppé la production de la camionnette mythique en 1981. Pierre avait choisi le modèle allongé, un peu le même que possédaient les bouchers charcutiers dans les années 70. Orange, avec un nez rouge aplati qui donnait au camion un air de gros chien, avec les deux phares ronds comme des yeux et les rétros écartés par une tige de fer comme des oreilles. Un chien fripé de tôle ondulée. Son gros toutou, comme l'appelait Lily. Le gros toutou fainéant qui dormait dehors en occupant tout le jardin. Pierre l'avait aménagé lui-même avec l'aide d'un cousin garagiste à Neuville. C'était le cousin qui continuait d'entretenir de temps à autre le véhicule. Le Citroën ne faisait pas son âge. 283 000 km. « Une bête increvable !» affirmait le cousin. Marc n'avait pas d'autre choix que de le croire, malgré la carrosserie cabossée, les points de rouille, l'essuie-glace intérieur fixé au chatterton, le capot avant qui ne fermait plus tout à fait. Marc consulta sa montre. Un peu plus de 4 heures du matin. Dieppe dormait. Il traversa une ville fantôme, étrangement surveillée par des masques de soie agités dans le ciel par un vent tournoyant. Le Citroën roulait bruyamment, mais roulait. Marc ne voulait pas crier victoire trop vite. Il avait plus de 600 kilomètres à parcourir. Il avait pris le temps de consulter la carte. Il préférait éviter Paris et couper par le nord. Il avait tout noté sur une feuille. Neuchâtel-en-Bray, Beauvais, Compiègne, Soissons, Reims, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier, Langres, Vesoul, Montbéliard, le Mont-Terrible. Il avait calculé qu'il lui faudrait environ 10 heures pour faire la route, si tout allait bien. Marc longeait le port. Il lui restait à remonter le boulevard Chanzy et il sortirait de Dieppe. Il ne croisait personne dans les rues. Au bout du boulevard, Marc passa devant la gare. Il tourna machinalement la tête. Une fille dormait sur un banc. Le Citroën pila brusquement. Au moins, les freins fonctionnaient. Le klaxon aussi.
Malvina de Carville se réveilla en sursaut. Dans l'instant suivant, sa main se referma sur l'un des galets qu'elle avait pris soin d'emporter avant de quitter la plage. Folle peut-être, mais précautionneuse. Elle se leva, reconnut enfin Marc au volant du véhicule orange et rouge. Il ouvrit la vitre guillotine.
« Tu as tout de même pas caillassé le bahut ?»«
T'as qu'à me rendre mon flingue. »«
Il est dans ma poche, tu vois. Bien au chaud. Allez, monte. »
Malvina ouvrit des yeux incrédules. « Tu vas faire les marchés ou quoi ?»«
Monte, je te dis. Je pars en pèlerinage. Tordu comme tu es, le voyage devrait t'intéresser. »
Malvina s'approcha sans desserrer sa prise sur la pierre. Elle détailla avec scepticisme la rouille, le jour entre le capot et le moteur. « Me dis pas que tu comptes aller jusqu'au Mont-Terrible dans ce cercueil ambulant. »
Marc encaissa le rappel, évita de se demander s'il était volontaire ou non. « Je suis sûr que tu n'as jamais foutu les pieds là-bas, dans le Jura, et que tu en crèves d'envie. » Malvina lâcha le galet.
« Tu ne crois pas si bien dire. »
Marc ouvrit la portière passager. Malvina eut un peu de mal à lever la jambe jusqu'au marchepied de tôle jaune surélevée. Elle grogna.
« Dans ton camion pourri, on va même pas atteindre Paris. »
« Je t'emmerde. » Et on ne passe pas par Paris, on coupe par le nord. Marc tendit à Malvina la liste des villes à traverser.
Putain, les bleds! Vaut mieux pas qu'on tombe en rade. En fait, c'est toi le plus taré de nous deux.
Marc ne releva pas. Ils suivirent silencieusement la départementale 1. La route épousait en long lacet le fond de vallée du pays de Bray. Après 10 minutes, Marc fut le premier à rompre le silence. Excuse-nous pour hier soir, hein? « On t'a pas invité à dîner. Ce sera pour une autre fois. »«
Te bile pas, je suis capable de me débrouiller. J'ai sympathisé avec des gars du coin. »
Nouveau silence de 10 minutes. Ils approchaient de Neuchâtel-en-Bray.
« On va foutre quoi, là-bas ?»
lança soudain Malvina. « On part en pèlerinage, je t'ai dit. » Malvina regarda Marc d'un air curieux.
« Et ça te prend comme ça ? Je croyais que l'affaire était pliée. Ce test ADN à la con que ma grand-mère a demandé. Libellule et ta petite sœur, c'est écrit noir sur blanc. C'est parce que tu la baises que t'as les boules ?»
Marc entrait en agglomération. Il donna un coup de frein brutal. Malvina se retrouva collée au siège. La ceinture de sécurité, trop haute, lui laboura le cou.
« Ah, si tu freines à chaque fois que je te balance une vanne, on n'est pas arrivé. »
Une vanne. Dire qu'il allait devoir supporter 10 heures cette fille. Il répliqua comme il put. « Excuse-moi pour la ceinture. J'ai oublié le réhausseur chez la nounou. »
« Ah ah ah. Si tu mets ton humour au niveau, je sens qu'on va pas s'ennuyer sur la route. »
Marc n'avait aucune envie d'entrer dans le jeu. Il laissa passer un nouveau long silence, puis finit par demander « Parce que tu y crois, toi, ce test ADN à la con ?»«
Plutôt crever que de croire ce torchon !»«
Alors c'est bien, on est d'accord. » Malvina insista, tout en tirant sur sa ceinture.
« C'est du bidon. J'ai toujours su que Grand-Duc était de votre côté, à cause de ses remords, à cause des nichons de ta grand-mère aussi. »
Ce coup-ci, Marc ne freina pas, mais il se demanda sérieusement s'il n'allait pas la laisser là, sur le bord de la route. Il l'aurait fait s'il n'avait pas eu besoin d'elle. Il devait être patient. Malvina lui serait utile. Elle s'était déjà trahie sans s'en rendre compte. Elle venait de parler des remords de Grand-Duc. Ce n'était qu'un début. Ils gardèrent le silence près d'une heure, jusqu'à Beauvais. La nationale défilait déserte, monotone. Malvina se pencha en avant. La vieille ceinture de sécurité poussiéreuse, raide, lui racla l'oreille.
« Il marche pas, je parie, ton autoradio ?»«
La radio est naze, ça c'est certain. Mais le lecteur de cassettes doit encore fonctionner. Les mini-cassettes qu'on écoutait quand on était gamin doivent toujours y être. » Malvina éclata de rire.
« Oh putain, des mini-cassettes, ça existe encore ?»«
Regarde dans la boîte à gants devant toi, tu vas en trouver une dizaine. » Malvina ouvrit la boîte à gants.
« Ça ressemble à quoi, une mini-cassette ?»
Elle se tourna vers Marc, avec presque une malice dans les yeux.
« Oh, va pas piler pour ça, je déconne !»
Elle passa quelques minutes à détailler les mini-cassettes, puis en glissa une dans le lecteur sans la montrer à Marc. Un riff brutal de guitare mélangé au son d'une sirène de police emplit l'habitacle de Toll ondulé. La ballade de Serge K, la virée nocturne d'un privé solitaire. Marc reconnut l'album au premier accord, poème rock. Demain, demain, demain comme hier, chantait la voix nasale de Charlélie Couture. J'étais sûr que tu mettrais celle-là, fit Marc.
Je m'en doute, je voulais pas te décevoir.
Marc sourit à son tour. Ils entraient dans Beauvais. Même à 5h du matin, la traversée était pénible. Ils avancèrent par sauts lents entre des feux tricolores, apparemment réglés par un fonctionnaire sadique pour qu'un automobiliste respectant les limitations de vitesse les croise tous au rouge. « T'as raison, » glissa Marc entre deux feux. « Je confirme. Poème rock est le meilleur album de rock français jamais écrit. »«
J'en sais rien, je connais qu'une chanson. Tu te doutes de laquelle ?» Mais comme t'as pas de CD, faut se taper toute la face A.
T'écoutes quoi d'habitude ?
Rien.
La voix de Charlélie Couture meubla le silence qui suivit. Il sortait enfin de Beauvais. La face A se termina. Malvina retourna la cassette sans un mot et monta le son de l'autoradio. Trop fort. La tôle vibra sous les premiers accords de piano.
Semblant capa d'éclair. Écoute la voix du vent et qui se glisse sous la porte.
Un frisson parcourut la nuque de Marc. Malvina avait fermé les yeux, elle ouvrait les lèvres, chantait les paroles. Les mimait plutôt, sa bouche déformée ne produisant aucun son. Malgré lui, Marc avait un peu ralenti. Il avait écouté cette chanson des centaines de fois, lorsqu'il était seul, lorsqu'il se réfugiait, lorsqu'il doutait. Toujours sans Lily, Lily ne la supportait pas. Elle hurlait dès qu'elle l'entendait. Lorsqu'elle avait 8 ans, Lily avait explosé un transistor chez une copine, Manon, sur le carrelage de la cuisine, simplement parce que la chanson passait à la radio. Malvina semblait émue aux larmes. Le déchirant solo de guitare n'arrangeait rien. Marc regardait fixement l'horizon. La voix de Charles-Élie Couture s'éloigna lentement. Malvina renifla, Marc ne dit rien. Ils continuèrent de rouler. La nationale défilait, traversant de tristes villages qui, dans la vaine attente d'un contournement, affichaient à grand renfort d'affiches le nombre de morts sur la route et le nombre de poids lourds passant chaque jour. 20 minutes plus tard, ils approchaient de Compiègne. La circulation commençait à se densifier. À la sortie de Compiègne, Marc se tourna vers Malvina. « Au prochain bled, si on voit une boulangerie ouverte, on pourra s'arrêter pour manger quelque chose. » Malvina se retourna vers l'arrière du camion.
« Ah, je pensais que t'allais me laisser le volant et pendant que je roulerais, tu te glisserais à l'arrière du camion pour tout préparer. Crêpes, gaufres, hein, comme papy et mamie. »
Marc ne répondit rien. Ce n'était plus la peine. Il avait pris sa décision. C'était le moment. Après tout, d'une certaine façon, c'était Malvina qui avait abordé la question. Il traversait un petit village, Cattenois, dont le centre-ville, l'église, l'école et la mairie avaient prudemment été construits en retrait de la nationale. Marc se gara sur un vaste parking poussiéreux. Au fond du parterre bitumé, toutes les maisons, tous les commerces étaient fermés, y compris le restaurant, qui affichait fièrement son menu complet pour routier à 49 francs. Marc vérifia que le Moser était toujours dans sa poche, retira les clés du contact, puis descendit du Citroën. Le parking était bordé de quelques bouleaux aux feuilles noircies par le flux incessant des poids lourds. Marc s'éloigna un peu, se soulagea derrière un tronc, revint au camion. Malvina n'avait pas bougé. Marc s'approcha de la porte passager, l'ouvrit. Il sortit de la poche arrière de son jean 5 feuilles déchirées et les tendit à Malvina. « Tiens, lis ça. » Malvina ouvrit des yeux étonnés. Marc précisa « Ce sont les pages du cahier de Grand-Duc, son fameux carnet, son enquête. Lis ça, c'est un passage instructif. Ensuite, j'aurai autre chose à te montrer. »